Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission locale. Une émission qui va vous parler d'insertion économique, mais pas seulement, rassurez-vous. Nous parlerons de tout un tas de choses. Pour m'accompagner durant cette émission qui est réalisée en coproduction avec la mission locale d'Evreux, j'ai Johan et Rémi. Bonjour à vous les gars.
Bonjour. Bonjour.
Alors, pour tout dire aux auditeurs, c'est vous qui avez préparé cette émission. Vous avez travaillé sur la thématique que vous allez nous présenter dans un tout petit instant. En quelques mots, déjà, comment s'est passée la préparation ? Rémi ?
Oh bah, tout simplement, au début, on nous a dit, oui, bon, bah, voilà, le thème que vous allez avoir, c'est la filière sanitaire et sociale. Donc, déjà, moi, je connaissais un petit peu parce que mes parents, puisqu'ils travaillent dans cette, un peu dans cette, en rapport avec cette filière, j'avais deux, trois notions et c'était assez simple de trouver des sujets, des questions sur ce sujet.
Johan, toi, c'était un sujet que tu connaissais?
Un peu, mais pas tant que ça, parce que je connais pas vraiment beaucoup de monde qui travaille dans le service médico-social, donc je vais découvrir en même temps, mais avec déjà ce qu'on a recherché.
Voilà, et alors la préparation, ça s'est fait comment, Johan ?
Pour moi, c'était un peu compliqué, mais bon, après, avec Rémi, du coup, j'ai suivi un peu et on a trouvé plein de sujets. Et plein de questions à poser.
Voilà. Et puis, vous avez été aidé de Jean-Jean, que nous retrouvons aujourd'hui, à la réalisation de cette émission.
J'ai l'intention de tenir l'antenne 24 heures sur 24 jusqu'à ma mort. Et puis même encore après, s'il le faut.
Mais tu crois pas que ça pourrait peut-être finir par être légèrement monotone comme expérience pour l'auditeur ?
Principe actif. 102.4 FM.
Vous êtes toujours en direct de l'émission Les Missions Locales, en coproduction avec la mission locale d'Evreux, accompagné toujours de Johan et Rémi. Alors vous l'avez dit, Johan, Rémi, que nous travaillons ce mois-ci sur le médico-social. Est-ce que vous pouvez nous présenter les invités qui sont avec nous en plateau ? Johan.
Alors, on a Natacha Dehaye, qui est la directrice de l'EHPAD Villa Providence à Evreux. Donc, bonjour Natacha.
Bonjour.
Alors, nous avons aussi Guillaume Debry, qui est un salarié de la Villa Providence.
Aide-soignant, même si je ne m'abuse.
Ouais, exactement. Voilà. Bonjour.
Et on a Marion Pétel, qui est la représentante de NACTIM, qui est une société coopérative intérim à but non lucratif.
Bonjour. Bonjour.
Donc, le but du jeu, c'est d'explorer le temps que nous avons devant nous, cette voie du médico-social. Mais on avait d'autres questions aussi, parce que rien que dans les intitulés, ça a généré quand même quelques questions. J'ai Marion en face de moi et on aura quelques questions à éclaircir. Comment on s'organise ? Vous commenciez par la Villa Providence, je crois, hein, dans votre organisation, les gars.
Oui, on va commencer par la Villa Providence. On va finir ça comme team.
Eh bien, écoute, si on se l'est dit comme ça, faisons ça comme ça. Alors, vous aviez quelques... Première question peut-être pour lancer. Je vous laisse faire et puis chacun peut intervenir au moment où il le souhaite, bien entendu. C'est le déroulé de cette émission. Marion, on échangera avec vous dans un petit instant. Mais si vous voulez poser des questions, vous aussi, bien entendu, vous le pouvez.
Je vais donner la parole à Johan pour sa première question.
Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est... quel type de formation est requise en fonction du poste qui est occupé ? Donc ça peut être aide-soignant ou autre poste.
Voir les métiers aussi, peut-être aussi. Hein. Voir les métiers qu'on peut retrouver.
Et les métiers qu'il y a dans la Villa Providence.
Alors, un EHPAD, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, en effet, accueille différents métiers. Nous accueillons aussi bien un public d'aide-soignants. Et dans ces cas-là, le diplôme qui est requis, c'est le diplôme d'État d'aide-soignant. Et nous avons la chance sur notre territoire, en plus, d'avoir deux écoles qui délivrent ce diplôme, puisque nous avons un IFAS, donc au niveau du CH, et également avec la clinique Pasteur. Donc on a Eursen.
Le CH, c'est le centre hospitalier.
Exactement.
Je dis ça pour les auditeurs qui ne sont pas forcément super au point sur les abréviations. Exactement. Ce sera mon rôle, hein, je reviendrai sur toutes les abréviations.
Après, on va accueillir également des infirmiers, des infirmières. Et là encore, nous avons l'école de formation de soins infirmiers, donc avec le centre hospitalier Heursen sur notre territoire. Mais nous accueillons également d'autres filières comme l'agent de service hôtelier. Ce sont des métiers qui travaillent en binôme avec les aides-soignants pour accompagner les résidents au quotidien. Nous avons également des métiers dans l'animation pour, bien entendu, créer de la vie sociale dans l'établissement. Nous avons un agent d'entretien. Nous avons des métiers administratifs, secrétariat, comptabilité, la cuisine également. Donc, vous voyez, on couvre des champs très, très, très larges dans un EHPAD.
Moi, je voulais revenir juste sur une petite chose. Et on a Guillaume qui est avec nous en plateau. Ça tombe bien. Vous avez égrené tous ces métiers qu'on retrouvait notamment dans un EHPAD. Vous êtes passé sur aide-soignant. Je voudrais en savoir un petit peu plus. Moi, c'est quoi un aide-soignant, en fait? On ne sait pas forcément en quoi consiste le métier d'aide-soignant.
Alors, l'aide-soignant, est, pour schématiser un petit peu, est le premier auprès du résident le matin et le dernier auprès du résident le soir. Voilà, on est là pour tous les actes de la vie quotidienne, que ce soit le lever, la toilette, les repas, les installations, soit dans un fauteuil, soit sur le lit. On est là pour accompagner la personne, le résident, au quotidien.
Il y a vraiment une notion de proximité, du coup, là, avec la personne, parce qu'on est sur des gestes du quotidien, oui, mais qui sont des gestes aussi de l'intimité.
De l'intimité, tout à fait. Je pense que dans tout le secteur médical, médico-social, nous sommes les plus proches des résidents, plus proches encore que les infirmières et tout le personnel médical, vraiment médical.
La qualité première, c'est quoi? C'est d'être sympa.
Ça joue aussi, c'est l'écoute, c'est l'empathie, c'est la disponibilité aussi. Plein de qualités comme ça qui sont prérequises, mais qui sont déjà présentes. C'est un métier de vocation, je pense.
Alors, je voudrais rebondir vite fait un peu sur les animations, parce que vous en avez parlé. Comment se passent les animations et comment vous les proposez aux résidents?
Alors, les animations chez Villa La Providence, elles sont organisées du lundi au dimanche. 7 jours sur 7, on est capable de proposer des animations auprès des résidents. Donc, on a, nous, deux animateurs. On a la chance d'avoir deux animateurs qui travaillent donc du lundi au dimanche avec des roulements, en effet, croisés, comme vous pouvez l'imaginer. Mais je ne les fais pas travailler 7 jours sur 7. Et ils organisent, en effet, des animations, aussi bien le matin que l'après-midi, pour s'adapter aussi en fonction des résidents. C'est-à-dire que le matin, ça va être des animations qui vont être beaucoup plus orientées sur des accompagnements un petit peu plus individuels. Pourquoi ? Parce que le matin, les aides-soignants accompagnent les résidents dans les gestes de la vie quotidienne et on va plutôt consacrer ce temps à des temps plutôt individuels. Alors que l'après-midi, on peut permettre un peu plus de temps collectif. Alors, bien sûr, de par la situation sanitaire, on adapte nos animations, mais on propose différentes activités. On peut avoir des activités plus intellectuelles, plus artistiques, plus sportives aussi, musicales. Enfin, c'est très, 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 très varié pour permettre aux résidents, à chacun, de trouver ce qui lui plaît, surtout. Parce que ce qui compte avant tout, c'est le plaisir du résident. Ça peut être gustatif. On aime manger et les résidents aussi, nous aussi, et on peut faire des ateliers bien entendu avec eux par exemple.
Vous avez une animation phare, genre une où on sait que ça va forcément fonctionner?
Ah oui, le volet sur chaise.
Le volet sur chaise?
Ah oui, le volet sur chaise. On a la chance en plus à Villa La Providence d'avoir des bénévoles qui viennent accompagner vraiment les résidents au quotidien. Et dans ces bénévoles, il y a un petit peu plus de 10% de nos familles qui sont présentes auprès de nos résidents. Et le volet sur chaise, ben, en fin de compte, c'est tout simplement donc l'une de nos bénévoles, Michel, très très présente et très engagée à Villa La Providence, qui en fin de compte réunit les résidents avec un filet au milieu de la salle et avec un beau ballon de baudruche. Et il y a des équipes et en fin de compte, ils se renvoient le volet d'un côté et de l'autre. Et je peux vous assurer que c'est éclat de rire garanti.
Ça, je veux bien vous croire sur la façon. C'est original. Je connaissais pas le volet sur chaise en fait. Hein.
Ah ben venez.
Il faut tester.
Venez, moi voilà.
Ça donne envie d'essayer. Hein.
Si moi je voulais revenir sur cette question d'animateur, quand on parle d'animation, le grand public voit bien l'animation pour les enfants, centre de loisirs, on voit bien l'animation pour les jeunes, mais c'est peut-être un métier moins connu, peut-être le métier d'animateur en EHPAD. Est-ce que ce sont des spécialités particulières, l'animation en EHPAD? Est-ce que ce sont des diplômes, des parcours, des cursus, des sensibilités particulières?
Oui, tout à fait. Alors, au niveau des animateurs, très souvent, ce sont des gens qui vont avoir un diplôme, on appelle le BPGEPS en fin de compte, pour accompagner les résidents. Mais je rejoins Guillaume. Avant un diplôme, c'est surtout le cœur. Il faut avoir envie d'apporter de la joie, créer vraiment des relations entre les gens, parce que le lien social, c'est ce qui va faire qu'un résident, des fois le matin, va avoir envie de se lever. Peut-être il va avoir envie de se lever parce qu'aujourd'hui, c'est l'animation volée sur chaise, par exemple. Donc l'animateur, je dirais qu'il est comme un soignant. Pour nous, on est tous des soignants avec un S majuscule. On a tous un rôle à jouer dans le bien-être du résident au quotidien. Et donc aujourd'hui, un animateur qui est là que pour faire une activité, il est à côté de son métier. Aujourd'hui, on est là vraiment pour un EHPAD, ça doit être de la tendresse, ça doit être de l'amour. Permettre à des gens de se rencontrer qui ne se connaissent pas. Il y a des résidents, des nouveaux qui arrivent. C'est nouveau, c'est pas évident. Et c'est de créer du lien social. Parce que créer du lien social, c'est la raison pour laquelle, vous voyez, on est autour de cette table aujourd'hui. On a du lien social, on apprend à se connaître, c'est très agréable. Bien, pour des résidents, c'est exactement la même chose. La résidence, c'est leur maison, c'est leur chez eux. C'est nous qui habitons chez eux. Donc on doit créer de l'animation, des activités pour leur permettre de vivre entre eux au jour le jour, tout simplement.
Donc vous proposez vraiment, quand vous proposez une animation, c'est vraiment pour leur donner du lien social, tout simplement.
Exactement, le lien social est vraiment très important. En fin de compte, l'activité culinaire, je vais prendre celle-ci parce qu'elle me tient très à cœur. En fin de compte, c'est le prétexte de dire, moi, la tarte au chocolat, je la faisais plutôt comme ça. Et une autre dame va arriver ou un monsieur va arriver en disant, ah oui, mais non, moi, j'ai rajouté de la crème. Ah bon ? Et là, il se passe quelque chose. Et en fin de compte, ça peut être à travers des chansons, ça peut être à travers un atelier artistique, ça peut être à travers un atelier un petit peu plus sportif, entre guillemets. Il y a le sport adapté aujourd'hui. C'est un prétexte, c'est juste le prétexte pour qu'il se passe quelque chose.
Bah, puis qu'on s'amuse aussi au bout d'un moment, c'est ça le sens de la vie, surtout quand on a du temps. Enfin, j'imagine, en EHPAD, on est forcément retraité, on a un certain âge, beaucoup moins de contraintes, j'imagine, enfin d'obligations, en tout cas de la vie quotidienne. Oui. Autant s'amuser, quoi.
Exactement. Enfin, un lieu EHPAD, c'est vraiment un lieu où l'on vit. Et Villa La Providence est un EHPAD qui est ouverte sur l'extérieur. Moi, j'invite les gens à venir nous visiter. C'est pour ça que, et je tiens à remercier vraiment la mission locale par rapport à ça, on a toujours eu un partenariat très actif et merci de nous permettre de l'exprimer aujourd'hui à travers votre radio parce que c'est très important d'ouvrir les portes d'un EHPAD pour voir ce que c'est qu'un EHPAD, comment on y vit. Parce qu'on y vit dans un EHPAD, vraiment.
Alors moi, je voudrais vous poser une question. Alors c'est personnel parce que je connais une personne en village retraite, c'est... Est-ce qu'il y a une différence entre un EHPAD, une maison de retraite et un village retraite ?
Alors, un EHPAD, en fin de compte, vous êtes vraiment sur l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est l'acronyme, en fin de compte, d'EHPAD. D'accord ? Après, vous allez avoir plutôt ce qu'on va appeler plutôt de la résidence autonomie. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui sont dans des logements, d'accord, mais qui ont encore cette capacité de s'assumer complètement dans les gestes de la vie quotidienne. Dans nos établissements... Les gens ont encore certaines facultés, bien entendu, pour s'assumer, mais ils ne peuvent plus rester seuls à domicile. C'est pour ça qu'ils arrivent en EHPAD, en fin de compte. La grande différence, elle est là. La moyenne d'âge d'arrivée aujourd'hui dans un EHPAD, c'est 90 ans d'arrivée, la moyenne d'âge d'arrivée, parce que les gens restent le plus longtemps possible à domicile ou dans d'autres foyers, justement, avant d'arriver en EHPAD. En EHPAD, le niveau de dépendance, en général, est déjà beaucoup plus élevé. Et il y a besoin des collègues comme Guillaume pour accompagner dans les gestes de la vie quotidienne, puisque les gens ne sont en général plus en capacité ou en difficulté pour effectuer des gestes de la vie quotidienne, ne serait-ce que pour se faire à manger, se laver. Ça devient plus compliqué.
Alors, je voudrais un peu parler niveau formation, et surtout à Guillaume. Est-ce que vous pouvez décrire votre parcours ?
Mon parcours personnel ?
Oui.
Ah oui, parce qu'on s'intéresse aussi beaucoup au parcours personnel. Très parce bien. Qu'il y a le parcours officiel, celui qui est marqué dans les fiches métiers officielles. Et puis, il y a le parcours personnel qui, parfois, est différent des fiches métiers, comme on peut les trouver dans les centres d'orientation. Donc, effectivement, c'est votre parcours personnel qui nous intéresse, si vous voulez bien le partager avec nous, bien entendu.
Bien sûr. Alors, mon parcours personnel, moi, je voulais, à la base, me lancer dans une carrière d'infirmier, puisque le soin, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis très, très longtemps, depuis mon plus jeune âge, on va dire. Mais n'étant pas suffisamment bon élève, je me suis plutôt retranché sur une carrière, donc toujours dans le médical, mais ne nécessitant pas forcément le bac. Donc la carrière d'aide-soignant. J'ai passé le concours, parce qu'à l'époque, il y avait un concours. J'ai été reçu et diplômé donc de l'IFAS de Saint-Michel.
Ça dure combien de temps, cette formation d'aide-soignant ?
Maintenant, ça dure 10 mois. À mon époque, ça en durait 12, parce que la formation a quand même beaucoup changé entre la fin des années 90 et maintenant. Et maintenant, ça dure 10 mois. Les périodes de stage, maintenant, les élèves font des stages de 4 semaines complètes, alors que moi, je faisais une semaine de cours, une semaine de stage. Et toutes les 3 ou 4 semaines de stage, on changeait de lieu. Voilà, donc... Donc j'ai été diplômé de l'IFAS de Saint-Michel début 97 et j'ai eu la chance, bon, je peux dire que c'est une chance, de faire mon service national puisque je suis dans les derniers contingents à l'avoir fait et j'étais dans une infirmerie de garnison. Donc le premier jour on m'a dit qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous savez faire. J'ai dit infirmerie, on m'a dit banco. Donc j'ai eu une petite formation quand même à l'école de santé des armées de Dinan, qui n'existe plus maintenant. Et j'ai passé le restant de mon service dans une infirmerie de garnison auprès de médecins capitaines, à faire des soins, notamment des soins infirmiers et même des soins médicaux, puisque j'ai appris à suturer, par exemple, chose que je ne referai plus dans le civil, puisque seuls les médecins peuvent le faire. Donc j'ai appris à piquer, à faire du soin d'urgence aussi, à jouer un petit peu, si on peut dire, à l'ambulancier militaire, avec le transport de malades et de blessés. Et quand je suis sorti de l'armée, il y a une structure sur Évreux qui venait d'ouvrir. J'ai postulé, j'ai été pris, j'y suis resté 20 ans. Voilà, avec la même vocation, on va dire. Et au bout de 20 ans, j'ai eu envie de changer de branche.
C'était déjà en EHPAD, vous restez un peu flou sur la structure, vous faites comme vous voulez, la question, mais c'était déjà en EHPAD ?
Non, c'était pas en EHPAD, c'était dans la psychiatrie adulte, un foyer d'accueil pour personnes handicapées adultes. Et donc j'y suis resté 20 ans. Et j'ai eu envie de changer, parce que je pensais en avoir fait le tour. J'ai eu un autre projet qui ne s'est pas réalisé, faute de lieu de stage obligatoire. Et j'ai repostulé, puisque j'étais déjà passé par Villa-la-Providence pour quelques jours. J'y ai repostulé avec le concours de mon conseiller Pôle emploi de l'époque. Et... À peine j'ai eu remis un pied à Villa-la-Providence, on m'a proposé un CDI. Donc voilà, ça va faire bientôt un an que j'y suis. Voilà.
Je voulais revenir sur juste une notion. Je suis désolé de vous prendre la parole, hein, Johan et Rémi, mais j'avais une notion. Vous disiez tout à l'heure, les formations, elles se passaient comme ça, mais ça, c'était avant, ça a évolué. Vous parliez que les choses avaient bougé. Est-ce que dans les métiers aussi du sanitaire et social, les choses évoluent et bougent, ou c'est juste la formation qui a bougé ? Est-ce que dans le métier d'assistant sanitaire, aide-soignant, pardon. Pff, je vais pas y arriver, moi. Aide-soignant, dans le métier d'aide-soignant, est-ce que les lignes ont bougé? Est-ce que le métier est différent d'il y a 20 ans? Est-ce que vous, à la Villa Providence aussi, vous abordez les choses autrement dans les corps de métier qui interviennent auprès des résidents, de manière différente? Alors, je suis pas sûr quelle période, mais je rebondis sur ce que disait Guillaume sur les 20 dernières années, les choses avaient bougé. Est-ce que les pratiques changent?
Alors, en effet, le métier d'aide-soignant, et je tiens à souligner qu'en effet, il existe le DE, comme j'ai dit tout à l'heure, le diplôme d'État, mais il faut savoir aussi que nous travaillons avec des auxiliaires de vie de plus en plus, puisque nous avons un gros problème de recrutement dans nos métiers. Il y a une désinsertion complète, en effet, un désaveu, je dirais, vers les métiers du soin, ce qui est un petit peu dommage, mais on est là pour en parler justement et attirer nos jeunes vers ces métiers-là parce que c'est très important d'y venir. Nous sommes les vieux de demain, donc il va falloir du monde pour s'occuper de nous quand même, ne l'oublions pas.
C'est un petit peu intéressé finalement ce recrutement, essayer de donner envie en fait.
Un peu. Mais ça reste une réalité et aujourd'hui on a quand même des écoles de formation d'aide-soignants qui ouvrent leurs sessions à moitié remplies. Parce que justement, ils ont du mal à compléter leur niveau de place disponible. En effet, le métier a évolué parce que les publics ont évolué, pour répondre à votre question. Et puis, nous sommes amenés dans nos établissements à accueillir une diversité sociale. On accueille aussi bien des gens de la psychiatrie, de différents horizons, de différents profils, différents troubles, je dirais. Donc, par définition, aujourd'hui, l'accompagnement en soins peut être complètement différent pour un aide-soignant. Ça va nécessiter, en effet, d'avoir des connaissances quand même sur différentes pathologies. C'est pour ça qu'on veut travailler en partenariat avec différentes structures sur le territoire pour permettre aux aides-soignants de rencontrer d'autres collègues, par exemple d'autres structures, pour mieux connaître et mieux faciliter la prise en soin. Je pense que toi, Guillaume, en effet, dans ton évolution de métier en tant qu'aide-soignant, tu as dû voir la progression, justement, dans ton accompagnement au quotidien.
Oui, ça a changé, mais finalement pas tant que ça, je pense. On reste sur une sorte de stabilité, en fait.
Niveau de dépendance.
Bien dans le micro pour le coup.
Au niveau de la dépendance. Alors après, moi, j'ai pas spécialement d'expérience en EHPAD vraiment. Je sais pas trop.
Natacha, vous étiez en train de dire que sur la prise en compte du résident ou en tout cas de la dépendance, les choses avaient évolué.
Et elles évoluent dans le sens où, en fin de compte, comme l'arrivée du résident se fait de plus en plus tard, le besoin de prise en soin, du coup, peut être de plus en plus important auprès de la personne. C'est plutôt dans ce sens-là. Avant, on avait des personnes âgées qui pouvaient se dire « je vais aller en maison de retraite un petit peu plus tôt ». On a encore ces personnes-là, mais elles sont de plus en plus rares aujourd'hui. La personne qui vient vous voir en vous disant « j'ai décidé de venir passer mes vieux jours en maison de retraite », on ne la voit plus. Aujourd'hui, les gens très souvent arrivent en maison de retraite parce qu'il y a eu la mauvaise chute à la maison. La mauvaise chute à la maison, ça s'est terminé à l'hôpital, ça s'est terminé en soins de suite. Et en soins de suite, on a dit le retour à domicile n'est plus possible et donc il faut trouver une structure parce que vous ne pouvez plus retourner au domicile. Et là, dans l'accompagnement au quotidien, ça nécessite d'accompagner la personne sur un niveau de dépendance qui est un petit peu plus important que ce qu'on aurait pu connaître il y a plusieurs années de cela.
Rémi, Johan, une petite dernière question pour la route ou alors on part en pause musicale avant de découvrir Marion Pétel de Nactim. Comment on fait? Dites-moi, est-ce que vous avez des trucs sous le coude? Ça foisonne, ça pousse. Vous voulez me reprendre le micro ou on se fait une petite pause musicale pour ensuite faire connaissance avec Marion Pétel?
Est-ce que Johan a une question, quelque chose?
Non. On va écouter un petit peu de musique si ça vous va. Et puis, nous allons juste après découvrir Marion Pétel. Et puis après, nous ferons un échange plus collectif. Mais voilà, en savoir un peu plus sur Nactim. Bon Jean-Jean, si vous voulez nous envoyer de la musique, c'est maintenant.
Give me Je sais t'attendre savoir ce que je vais dire. Faire semblant d'être riche, être riche c'est pas la même chose. Et là je te vois applaudir. Et là je te vois applaudir. Je suis pas là pour m'inventer une vie moi. Moi je grave ce que je vis moi. Car je sais d'où je viens moi.
Eh, là où je viens, le père ne n'existe pas. Le seul cadeau qu'on a, c'est un frère retombé par balle. Eh, triste réalité, encore une histoire de rue. Une mère qui pleure, un père absent, une femme éprisée. Difficile de continuer à étudier quand c'est le RSA qui nous maintient. Eh, j'ai pas attendu qu'on me dise d'aller faire des yaskas. L'argent fait l'homme, l'argent donne respect. Argent propre ou sale, à la fin, ça a la même saveur. Argent propre ou sale, à la fin, ça a la même saveur. Eh, tu peux me dire l'amour était plus fort que tout. En grandissant, j'ai capté que la peur est plus solide. La nuit, je contemple les étoiles et je me dis, je dois briller. Donc, je dois faire plus de billets avant que mon âme prenne les voiles. Ma vie a changé. Enfin j'ai trouvé ma voie. Ma vie a changé. Enfin j'ai trouvé ma voie.
J'ai grandi sur le bitume entre la rage et l'amertume. Besoin d'espace pour respirer. J'ai plus envie de canaliser. Je suis à deux doigts de tout foutre en l'air et de tout déchirer. Provocation te casse, lâche l'affaire et dégage. La vie des fleurs, c'est le fun, c'est qu'on est tous morts.
Il y a quelques années, ma vie était un cauchemar. C'était pas mal la galère du matin jusqu'au soir. Merci maman pour toutes tes belles années. Yeah, yeah, je suis plein cœur brisé. Brise, 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 brise.
Ma vie a changé. Enfin, enfin j'ai trouvé ma voie. Ma vie a changé. Enfin, enfin j'ai trouvé ma voie.
Coup de blues toute la journée. Rien à faire à espérer. La solitude et le HIV. C'est la musique qui m'a sauvé. Dans ma mémoire, tout est gravé. Comme j'ai pu, j'ai avancé. Malgré les on-dit, la méchanceté. Il faut de l'espoir et s'accrocher. Mais c'est la musique qui m'a sauvé. Oui, c'est la musique qui m'a sauvé. Confiance en soi et méthode Coé. La maladie n'a pas gagné.
Ma vie a changé. Enfin, enfin j'ai trouvé ma voie. Ma vie a changé. Enfin, enfin j'ai trouvé ma voie.
Prenez soin de vous et surtout sortez couverts.
Voilà le titre Survie. Alors je suis obligé de m'arrêter deux petites secondes sur le titre que nous venons d'écouter. Ce titre Survie a été réalisé par des usagers de l'association L'Abri dans le cadre d'un accompagnement avec notamment le Tangram. Cette chanson a été écrite avec la complicité du groupe Métro Verlaine qui les a accompagnés dans l'écriture. Ils ont enregistré avec Arthur Guégan, un vrai ingé son, dans son studio d'ingé son. Et c'est un projet qui a été réalisé alors en plusieurs parties vu qu'il y a eu le confinement l'année 2020, mais ça a démarré au printemps 2020 et ça s'est terminé en fin d'année 2020. C'est tout frais, c'est une dizaine de jours à peine. Sur l'antenne de Principe Actif, vous aurez l'occasion de réécouter ce morceau Survie parce que nous on l'aime ce morceau, c'est pas compliqué. Et puis si ça vous a un peu échappé, eh bien on vous invite la prochaine fois à être très attentif sur les textes qui ont été écrits. Ils sont particulièrement poignants, bien écrits. Et puis voilà, quoi, on avait vraiment envie de souligner cette chanson Survie, réalisée notamment par des résidents de l'Abri. Rémi.
Principe actif.
C'est une radio libre.
Oui, je sais.
C'est une radio libre.
Je suis au parfum.
À Évreux, 102.4. À Verneuil-sur-Avre, à Breteuil-sur-Iton, à Conches-en-Mouche, 95.9.
Mais vous avez raison, Jean-Jean, me laissez pas faire comme ça, hein. Envoyez des jingles, bah oui, c'est plus joli quand même. C'est votre petite touche artistique à notre belle émission. Rémi, du coup, nous avions une autre invitée à notre plateau que tu souhaitais questionner.
Oui, donc à nouveau, rebonjour Marion Pétel.
Bonjour.
Donc vous représentez l'association NACTIM. Est-ce que vous pouvez nous présenter, expliquer qu'est-ce que c'est NACTIM ?
Alors oui, tout à fait. Donc moi, pour me présenter déjà, donc je suis Marion Pétel, chargée de recrutement pour NACTIM. Donc NACTIM, c'est une agence de travail temporaire qui est présente sur la zone industrielle de Netreville. Donc on est présent pour répondre à tous les besoins sur la Normandie. En fait, on répond à des besoins de coopérateurs qui sont que des associations dans le secteur médico-social et plus particulièrement dans le milieu du handicap. Et donc, on répond à leurs besoins personnels. Donc, ça peut être des besoins en tant qu'aide-soignant, comme on a pu voir, des besoins en tant qu'infirmier. On a fortement de besoins en tant qu'AES, accompagnant éducatif et social, notamment auprès des personnes en situation de handicap, donc dans l'accompagnement quotidien auprès de ces personnes. Et donc, nous, on met à disposition. Donc, en fait, le modèle NACTIM est un peu particulier. C'est un modèle qui a été créé il y a quelques années, en 2015, dans le sud de la France. On a créé une première agence. Et en fait, c'est à la suite de différentes discussions avec des associations du secteur qui se sont rendues compte qu'ils avaient fait de forts besoins de remplaçants, de vacataires, et qu'ils étaient en perpétuel recrutement sur ces besoins-là. Et donc, c'est là qu'est venue l'idée de créer NACTIM, un nouvel acteur sur l'intérim, pour pallier à ce besoin en personnel. Et donc, on met à disposition. Donc, ça permet aux associations d'avoir un seul et même vivier commun et de mutualiser un maximum nos vacataires intérimaires dans les différentes structures.
Vous avez utilisé le mot coopérateur, vous n'avez pas dit vos clients ou vos choses comme ça. Pourquoi est-ce que vous avez dit vos coopérateurs? Et j'imagine que ça a du sens.
Tout à fait, tout à fait. On n'est pas sur un fonctionnement d'une agence lambda, on est vraiment dans une relation non pas de clients mais de coopérateurs. C'est des adhérents, ils adhèrent à NACTIM et on répond que à ces coopérateurs. On n'a pas d'autres clients comme une agence qui peuvent venir et nous proposer des besoins. On répond directement à ces coopérateurs-là. Donc c'est vraiment une adhésion un investissement en tant qu'opérateur, il faut s'investir auprès de NACTIM. Il y a vraiment une charte de bonne conduite en tant que coopérateur pour répondre vraiment à ce besoin. Donc c'est une relation assez particulière entre nous et les associations.
Il y a besoin d'avoir des valeurs communes pour pouvoir travailler ensemble.
Tout à fait, effectivement. C'est des valeurs communes. On connaît très bien nos coopérateurs pour pouvoir répondre au mieux à leurs besoins. Et on est quotidiennement avec eux sur les échanges. On connaît leur fonctionnement au quotidien parce que c'est cette relation particulière qu'on a réussi à créer qui permet de répondre au mieux aux besoins.
Alors, moi, je voudrais savoir, votre secteur d'activité, c'est juste des EHPAD ou vous faites de tout, EHPAD, maison de retraite et tout?
Alors,
ça
nous, NACTIM, sur la Normandie, on n'a principalement que des structures qui accueillent des personnes en situation de handicap. Donc, on n'a pas du tout d'EHPAD. Par exemple, dans le Sud, parce qu'on est au niveau national, on a 6 agences au niveau national. On travaille effectivement avec des EHPAD. Sur la Normandie, on est principalement sur des structures type IME, Institut Médico-Éducatif, qui accueillent des enfants en situation de handicap, donc comme des pathologies autistiques, ou des déficiences mentales, des choses comme ça. On a des foyers de vie qui accueillent des adultes en situation de handicap. On a également des foyers d'hébergement où ce sont des personnes un peu plus autonomes, où il y a un accompagnement plus où on recherche des profils de maîtresse de maison. On va avoir des MAS, maisons d'accueil spécialisées, où là c'est du handicap beaucoup plus lourd, qui ont besoin d'un accompagnement quotidien. Donc on a plusieurs structures et on a à peu près, ça représente une vingtaine de structures qu'on échange et qui sont coopérateurs de l'agence de la Normandie.
Quand vous parlez de travail d'intérimaire, hein, c'est de ça dont on parle. Du coup, c'est sur tous les métiers. J'imagine qu'il y a des éducateurs spécialisés. Je vais me tromper, hein, bien entendu. Je ne suis pas
fait.
Du métier. Hein.
Donc effectivement,
des aides-soignants. Ça couvre quoi en fait comme champ d'activité très clairement. Parce qu'on se questionne aussi sur les métiers qui sont liés à tout ce secteur.
Alors, on va avoir effectivement des métiers sur l'accompagnement de ces personnes, type, comme on a dit, aide-soignant, infirmier. Mais on a aussi sur le volet éducatif, on peut avoir des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs. On a aussi sur tout ce qui est le fonctionnement d'une association lambda où forcément il y a des cuisines, donc on peut avoir besoin de cuisiniers. Et là, ponctuellement, on peut être amené à recruter ce type de profil également. des aides cuisine, on peut avoir des agents d'entretien également. Voilà, donc on a différentes demandes en fonction de nos associations et on a en capacité aussi de s'adapter aux besoins de nos établissements.
Pour les métiers qu'on retrouve un petit peu partout, et là j'entends en particulier la cuisine et l'entretien, par exemple, quand on travaille dans le médico-social en cuisine ou en entretien, il y a une spécialité où c'est finalement, peu importe, quand on est cuisinier partout, ou il y a une attention différente quand on travaille dans le médico-social?
Alors, le fait effectivement de travailler dans le médico-social et qu'on est par exemple dans la cuisine ou autre, il faut quand même avoir une appétence pour ce type de public, être à l'aise avec ce type de public déjà dans un premier temps. Et par exemple, dans les cuisines, on a une alimentation qui est spécifique à des personnes en situation de handicap, comme par exemple du mixé, du broyé, des choses comme ça. Donc des prescriptions alimentaires qui nécessitent une technicité, on va dire, pour pouvoir répondre aux besoins. Donc effectivement, on étaye un petit peu lors de nos recrutements pour savoir si c'est en capacité de faire ça, s'ils ont déjà fait ça, ou s'ils sont en capacité d'être formés et d'être accompagnés pour ce type de besoins.
Il y a un volet formation chez NACTIM.
Oui, tout à fait. On fait des formations, à savoir qu'on a mis en place notre premier plan de formation pour nos intérimaires. Donc le but, c'est de monter un maximum en compétences nos travailleurs temporaires. On s'est aperçu dans le secteur de la Normandie, même niveau national, que ce sont des métiers où on a du mal à recruter parce qu'effectivement, comme on a pu l'échanger tout à l'heure, les écoles d'infirmières ne sont pas remplies, etc. Donc on a la possibilité, nous, avec NACTIM, de soit, si vous n'avez pas le diplôme, on peut vous accompagner et vous placer quand même dans ce type de structure, si vous avez déjà une première expérience. Mais on a aussi des personnes qui viennent me voir en me disant, voilà, j'ai toujours une appétence pour ce métier-là, mais j'ai jamais eu l'opportunité de faire la formation ou ne serait-ce que d'avoir une expérience pour répondre à ça. Et donc, nous, on peut les accompagner là-dessus en prévenant, bien sûr, nos coopérateurs et l'établissement dans lequel il va arriver pour l'accompagner auprès de professionnels. Mais c'est tout à fait possible d'accompagner ces personnes dans un circuit. Et une fois qu'ils sont chez NACTIM, ce qui est important également, c'est que la montée en compétences peut se faire aussi par la formation en alternance. On accompagne nos intérimaires dans cette formation par le biais de l'alternance, quelque chose qui est plutôt apprécié pour que ça soit pour l'intérimaire au niveau des expériences et aussi pour les structures qui sont en recherche perpétuelle. Donc ça peut se faire comme ça. Donc nous, on met à disposition un alternant, que ça soit en contrat pro ou apprentissage. Il n'y a pas de limite d'âge, qui est important aussi parce que des fois on se bloque aussi à la limite de l'âge. Et donc, on l'accompagne, on le met à disposition avec notre association avec laquelle on échange, bien sûr, là-dessus. Et on le fait monter en compétences, notamment sur les besoins les plus poussés, qui sont les besoins en tant qu'accompagnant éducatif et social.
Je vois que vous êtes emparée du micro, Natacha. Vous souhaitiez réagir ?
Oui, complètement, parce qu'en effet, c'est très important aussi de parler de la VAE, la validation d'acquis par l'expérience. En effet, ça permet justement de monter en compétences des gens qui ont appris le métier, comme on va dire, un petit peu sur le terrain, hein, et qui peuvent se diplômer grâce à la validation d'acquis par l'expérience. Auparavant, il fallait au moins 3 ans d'expérience professionnelle pour pouvoir passer à la VAE. Maintenant, il ne faut qu'un an. Il faut vraiment qu'un an d'expérience dans la profession pour prétendre à une VAE et faire reconnaître son expérience par un diplôme. Donc ça, c'est très important. Je pense notamment à nos auxiliaires de vie. Je souligne le travail qui est fait avec le Greta par rapport à ça, notamment avec les bacs pro SAPAT, par exemple, où on va former vraiment, et là on va toucher le lien du domicile, hein, les gens qui travaillent aussi à domicile pour accompagner les personnes âgées, les auxiliaires de vie. Et ça, ce sont des gens qui font le métier de soignant, d'accord, mais qui n'ont pas appris à l'école et ils ont travaillé sur le terrain et ils n'ont pas eu de diplôme. Malgré tout, ça reste une profession réglementée. Et donc, c'est très important de valoriser la VAE. Et ça, c'est le travail qui est fait justement avec la mission locale pour permettre la montée en compétences des gens aussi qui n'ont pas de diplôme et qui ont su travailler sur le terrain. Il ne faut pas les oublier.
Alors moi, je voudrais poser une question à Marion. C'est par rapport à des... Vous avez parlé que vous travaillez pour des personnes handicapées. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que vous travaillez avec les Home Nathalie, Home Charlotte et tout ça? Est-ce que vous connaissez ou pas?
Oui, je peux vous expliquer un petit peu au niveau de nos coopérateurs. Sur la Normandie, on répond à 6 grandes associations coopératrices. On a notamment donc l'association auquel vous nous avez parlé, qui est l'association Marie-Hélène, qui est très présente sur le secteur de la Normandie, qui accompagne des personnes en situation de handicap, de la plus petite enfance jusqu'à la fin de vie. Donc effectivement, on travaille avec tous les établissements de l'association Marie-Hélène, qui vont de Évreux jusqu'à Dreux. On a également des associations sur Verneuil-sur-Avre. On va jusqu'à Évreux. On a l'association APER également, qu'on travaille avec eux. On a l'association aussi sur Pont-Aune-Mer et Peigne, qui est l'association du Grand Lieu, pareil, qui sont des foyers de vie. Donc on a plusieurs grandes associations coopératrices avec lesquelles on travaille.
Alors, moi, perso, j'ai une question un peu plus... une autre question. Est-ce que vous vous développez que dans la région de Normandie ou vous vous développez un peu plus en France?
Alors, on a 6 agences au niveau national. On est principalement basé sur le sud de la France, à la Garde, dans le 83. Notre siège social est là-bas, donc c'est la première agence historiquement qui s'est créée en 2015. Et donc après, on a d'autres agences aux alentours, principalement basées dans le sud. Après, on remonte un petit peu sur le Cantal et la Normandie. Donc on s'est développé très très rapidement parce que c'est un modèle qui plaît énormément et au fur et à mesure, les associations se parlent et se communiquent. C'est comme ça d'ailleurs que la Normandie... a pu voir une Active Normandie se créer. C'est suite d'échanges d'associations normandes qui ont pu remonter auprès du Sud, etc. Et ils ont pu parler ensemble et créer l'agence de Normandie. Donc c'est à suite de ces échanges-là qu'on a pu créer. Et ça fonctionne très, très bien. Et on grandit plus vite qu'on l'aurait aimé.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, en début d'émission, que nous sommes... très intéressé par les parcours de vie des professionnels que nous rencontrons. Guillaume a livré son parcours professionnel tout à l'heure. J'aurais envie de poser la question à Natacha Dehay, directrice de la Villa Providence, mais également à Marion Pétel de Nactim. Qu'est-ce qui a amené dans votre parcours professionnel aujourd'hui presque, comment est-ce qu'on arrive à diriger un EHPAD? Comment est-ce qu'on arrive à être sur du recrutement, sur une agence d'intérim coopérative, j'ai envie de dire, dans le médico-social? J'imagine que c'est pas forcément par hasard. Tout à l'heure, Guillaume nous disait, il y a une certaine cohérence de sensibilité personnelle qui arrive au métier d'aide-soignant. Est-ce que c'est pareil pour vous, Marion, par exemple? Votre parcours, en fait, qui vous amène à ça?
Moi, j'ai fait un parcours en RH. J'ai eu mon alternance dans le milieu industriel, donc complètement rien à voir. Grande industrie de l'automobile. J'ai fait tout mon parcours. Ils m'ont accompagnée dans ma formation jusqu'au Master 2. Et donc, je suis restée là-bas un an en intérim suite à mon alternance. Je cherchais un peu de stabilité et de changer du milieu industriel et je voulais me revenir un petit peu sur tout ce qui était milieu médical justement, et donc en fait j'ai trouvé en psychiatrie. J'ai fait un an en psychiatrie et à la suite de ça j'ai trouvé Nactim dans le recrutement, et donc c'est effectivement ce volet associatif qui m'a plu. Le fait aussi que ça soit un modèle assez particulier et peu connu, c'est pas le fonctionnement d'une agence lambda, donc c'est vraiment intéressant, et le fait de développer aussi cette coopération entre nos associations et cette relation particulière qu'on a qui a pu m'attirer dans ce métier. Et c'est vrai que les quotidiens est très très actif et on peut être très bien en lien avec nos intérimaires, comme avec des directeurs, comme avec d'autres professionnels. Enfin voilà, on a tout type de métier aussi qui peut être très intéressant au quotidien.
Natacha, vous, votre parcours qui vous amène aujourd'hui à diriger un EHPAD?
Alors, moi, c'est pareil, c'est une reconversion professionnelle, en fin de compte. Je viens des ressources humaines également. J'ai notamment avec plusieurs années dans le travail temporaire. Donc, c'est un secteur que je connais bien aussi. Bien sûr, une appétence pour la personne vulnérable. Et moi, j'ai repris mes études avec l'IAE de Rouen, qui propose le master MOSM, en fin de compte. C'est le master en management des organisations sociales et médico-sociales. Et j'ai, grâce au groupe Audi Senior, puisque Villa-la-Providence appartient à un petit groupe familial, qui s'appelle Audi Senior, qui m'a permis de faire mes premières armes en tant que directrice, et ils m'ont confié la direction de cet établissement. Donc voilà.
Sur le secteur médico-social et de manière générale, depuis tout à l'heure, vous nous dites les formations sont pas remplies, parfois elles tournent à mi-remplissage, que c'est difficile de recruter dans ce secteur-là parce qu'il y a pas beaucoup d'offres de force de travail en fait. Pourquoi c'est pas rempli? Qu'est-ce qui se passe? C'est trop dur, trop impliquant comme métier, pas assez payé. Pourquoi est-ce que ça n'attire pas les jeunes en formation?
Alors, je pense qu'il y a différents paramètres qui rentrent en ligne de compte. En effet, ce sont des métiers sur lesquels il y a quand même des amplitudes horaires quand même assez importantes, hein, puisqu'on est sur des amplitudes de travail de 12 heures par jour, 10 heures payées. D'accord? Donc, mais ça fait un présentiel de 12 heures. On travaille un week-end sur deux. Donc aujourd'hui, on sait très bien que l'impact et l'équilibre vie privée, vie professionnelle jouent énormément. On est dans un métier où, comme le disait tout à l'heure Guillaume très justement, l'engagement humain est quand même très important. Donc c'est vrai que dans nos métiers à nous, mais je pense qu'il en est de même pour Nactim, le fait d'être confronté à des situations d'handicap, de deuil, de dépendance, de vieillesse, de pathologie, de différentes maladies, ça peut être des choses qui peuvent faire peur aux gens et de se dire « oh là là, non, je ne veux pas y aller ». Alors que bien sûr que ça fait partie de notre quotidien, mais c'est surtout pas que ça. Et il faut surtout pas retenir que ça, parce qu'à côté de ça, on vit des grands moments.
Oui, il y a le volet chaise, notamment.
Ah oui, mais c'est pour ça qu'on veut ouvrir nos établissements pour que les jeunes viennent voir, parce que vraiment, nos métiers, que ce soit dans le secteur du handicap, la psychiatrie encore, ou le vieillissement, ce n'est pas que ça, il ne faut pas retenir que ça. Il y a plein de belles choses à côté, et il faut venir voir, vraiment.
Vous faites le même constat, Marion, sur l'intérim, du coup, du fait qu'il soit difficile de mettre parfois des personnes en face des offres d'emploi?
Oui, tout à fait. Je le partage tout à fait là-dessus. On peut le rencontrer aussi lors de nos entretiens. Effectivement, il y a des problématiques horaires qui rentrent en ligne de compte. Et il y a un investissement, effectivement, avec un week-end sur deux, etc. Donc, ça peut être compliqué pour des personnes. Il y a aussi ce volet reprise de formation et perte de salaire qui rentre aussi en ligne de mire, malheureusement, mais c'est important. On n'a pas tous la possibilité de pouvoir reprendre une formation et de se retrouver pendant un an sans salaire ou avec un salaire réduit. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui bloque peut-être certaines personnes à passer le cap de faire cette formation. Donc effectivement, il y a plusieurs aspects. Ça reste aussi, par exemple, pour les aides-soignants, un travail qui est très physique, où on peut le faire pendant quelques années. Ça, de par la santé, on peut être amené aussi à arrêter ce travail. Donc voilà, il y a plusieurs problématiques où on a des bonnes aides-soignantes qui sont malheureusement obligées d'arrêter de par les problématiques de santé aussi. Donc voilà.
C'est vrai que la loi, pour parler de la problématique salaire, c'est vrai que par exemple la loi Ségur, hein, qui vient d'être mise en place, ça c'est assez révolutionnaire, hein, dans notre profession, c'est du jamais vu. C'est vrai que c'est quand même aujourd'hui 160 euros nets qui sont donnés à l'ensemble des personnels. Hein. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée parce que oui, clairement, hein, les grilles de rémunération sont quand même basses par rapport justement à cet investissement physique, psychologique, équilibre vie privée, vie professionnelle. On a quand même, je pense que ça a été crié suffisamment dans la rue, c'est une réalité. Oui, les grilles de salaire ne sont pas forcément très élevées et la loi Ségur est un vrai soutien pour répondre à cette problématique-là, clairement.
Guillaume Debris, vous êtes aide-soignant.
Oui.
Alors vous êtes balèze. Les auditeurs ne le voient pas, mais, non, mais vous êtes taillé, quoi. Il y a cette notion, ouais, de physique quand même qui rentre en ligne de compte dans ces métiers, d'aide-soignant en particulier.
Oui. On a beaucoup de manutention à faire. Au quotidien, que ce soit le matériel ou le matériel avec quelqu'un dedans. Donc, suivant la corpulence des gens, c'est plus ou moins facile. Et c'est sûrement plus facile pour moi que pour une petite collègue qui fait 1m60 et 40 kg toute mouillée, quoi. Donc, c'est aussi l'avantage d'être un homme, trop peu nombreux dans la profession. On est aux alentours de 10%, pour vous dire. Depuis des années, des années et des années, on tourne aux alentours de 10% d'hommes sur une promotion aide-soignante, par exemple.
Ce qui est pas énorme.
Non, c'est pas énorme, non.
Et voilà. Natacha qui dit, après ils sont captés par la psychiatrie en plus, donc on les récupère même plus en EHPAD.
On les a perdus.
Sur toutes ces questions-là, il y a des débouchés alors quand même dans le médico-social, parce que ça fait partie aussi des questions que nous posons à la mission locale quand nous faisons des interviews dans certains secteurs de métiers. Il y a des débouchés.
Ah oui, clairement, il y a des débouchés et on peut évoluer. Nous, on a des gens qui commencent quand même comme agents de service hôteliers, qui vont évoluer après comme faisant fonction aide-soignant, retourner à l'école pour passer le DE, donc le diplôme d'état d'aide-soignant, je fais attention aux acronymes, ou éventuellement faire une VAE, parce qu'en effet, il y a deux possibilités de se former, et ça, c'est important. Soit je retourne à l'école, et c'est pas toujours évident parce que les financements, c'est pas toujours si simple. Mais sur notre territoire, on a la chance de pouvoir faire des VAE parce qu'on a des gens qui encadrent très bien par rapport à ça. Et donc, des gens qui deviennent aides-soignants et on a des aides-soignants qui sont devenus infirmiers, infirmières. Donc, il y a une vraie possibilité de progression ou animateur. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. On a des gens qui ont quitté le soin parce que très justement, physiquement, c'était plus possible. Parce que c'est vrai que les soignants qui ont commencé, je dirais, il y a un petit peu plus longtemps, étaient moins sensibilisés sur le respect de leur corps. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus véhiculé dans les formations. On travaille
notamment les techniques de portage, de manutention. Enfin, aujourd'hui, il y a des techniques très spécifiques.
Oui, et puis on a la chance, là prochainement, je sais que nous, dans notre établissement, on va avoir un ergothérapeute grâce à l'école qu'on a encore une fois sur notre territoire. On a la chance d'avoir un territoire très très riche. On a la MUS avec une école d'ergo, de kiné. Là, nous, on va recruter un ergo. L'ergo, il est capable de travailler sur l'ensemble de l'établissement, que ce soit les professionnels ou que ce soit sur les résidents. Et donc, ils vont aider à travailler sur comment prendre soin de soi, parce que prendre soin du résident, c'est d'abord prendre soin de soi pour protéger le résident et non pas le contraire. Son corps est son outil de travail, donc il faut apprendre à le ménager. Et ça, c'est le discours qui est répété. Et c'est vrai que je pense qu'aussi, nous, les directeurs, dans nos politiques managériales, on doit avoir ce discours-là de prévention primaire, comme on dit, c'est-à-dire de tout mettre en œuvre pour éviter que les accidents se produisent et éviter que les gens, au fil des années, s'abîment de trop et finissent par être licenciés pour inaptitude parce qu'ils ne peuvent plus, parce que les épaules ne suivent plus, les poignets ne suivent plus, le dos ne suit plus. Voilà. Donc ça, c'est un vrai enjeu dans la profession. Donc il faut vraiment véhiculer le message qu'aujourd'hui, le matériel a évolué, les techniques ont évolué, le management a évolué et que voilà, je pense que le métier de soignant avec un S majuscule, parce qu'encore une fois, j'y mets tous les métiers, c'est vraiment un très beau métier. On a une population qui va être de plus en plus vieillissante, hein, quand même. D'ici les années 2050, il y aura quasiment les deux tiers de la population qui auront plus de 60 ans. Il faut faire quelque chose, il faut s'en occuper maintenant.
Et c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est nous les prochains vieux. Hein, donc, va falloir quand même qu'il y ait des jeunes pour s'occuper un petit peu de tout ça. Non, mais je vois bien, j'adhère à la démarche. Hein. Pendant que vous disiez que c'était un beau métier, Guillaume le confirmait avec la tête. Il disait oui, c'est un beau métier.
Oui, oui.
Et on sentait bien dans les yeux qu'il y avait cette petite flamme aussi.
Oui, oui. Bah, vous savez, moi, je participe souvent de loin aux activités. Notre animateur... quand il pratique l'après-midi, je m'arrête 5-10 minutes, je regarde, mais il y a des parties de rigolade, franchement, c'est extraordinaire. C'est vraiment, moi je m'amuse beaucoup. Il y a le côté culturel et tout ça, mais il y a le côté rigolade aussi. Hein. Très basiquement, on peut pas le nier. Hein.
Puis c'est un métier de l'humain. Et dès qu'on touche à l'humain, finalement, il se passe des choses.
100% dans l'humain, oui, ça.
Tout à fait. Est-ce qu'il vous reste des questions, Rémi, Johan, vous en dites quoi? Vous en pensez quoi?
Déjà, pour répondre à la première, je n'ai plus de questions.
D'accord.
J'en ai plus, j'ai tout dit. Et franchement, ça a l'air vraiment très intéressant comme métier. Je pense je vais me convertir en aide-soignant, moi.
Et ben voilà.
Ravi.
je vais me convertir. Hein.
Justement, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes qui se posent la question ? Là, on a évoqué tout un tas de choses. Alors, c'est vrai que on a levé un peu le voile sur ce qui pouvait paraître mystérieux dans ces métiers. Mais finalement, voilà, je sais pas. Je m'imagine, je suis en sortie de formation, j'ai un bac ou j'ai pas de bac, peu importe. D'ailleurs, je sais pas trop vers quoi m'orienter. Je me dis, tiens, je les entends là, ça a l'air plutôt pas mal. Guillaume a l'air assez convaincu que ce soit un beau métier. Voilà, Natacha en parle joliment. Marion nous vante aussi le fait que c'est un secteur dynamique et sympa. Mais on pourrait leur dire quoi de plus finalement à ces jeunes qui pourraient se dire pourquoi pas ?
Venez nous découvrir, osez pousser la porte. Et clairement, il faut pas rester sur de la théorie ou sur ce que vous voyez ou sur ce que vous entendez à la télé. Venez nous voir, venez à la rencontre des seniors, venez à la rencontre du handicap, venez visiter, c'est important. Aujourd'hui, il y a plein d'outils à travers les collègues avec qui on travaille de la mission locale de Pôle emploi, que ce soit les immersions professionnelles, que ce soit les stages découvertes. On a plein d'outils pour ouvrir nos portes et faire voir ce que c'est ce que sont les métiers du soin d'une manière plus large. Donc moi, j'encourage toute cette personne-là à dire... Ça n'engage à rien de pousser une porte et de se dire vous en avez parlé, ça m'a bien plu, je voudrais voir. Eh bien, venez. Venez, vous êtes les bienvenus, au contraire.
Bon, on ne peut pas être plus simple là en termes de réponse. Hein.
Il faut venir.
Vous posez les questions, venez. Voilà, c'est hyper invitant, c'est parfait. Ça nous va bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va se quitter sur ces dernières phrases parce qu'elles sont plutôt encourageantes. Ce qui met fin à notre émission, l'émission locale qui a été co-réalisée avec la mission locale, mais surtout avec le travail de Rémi et Johan. Merci beaucoup à vous, messieurs, pour votre travail. Hein. Parce que finalement, c'est facile. Moi, j'arrive, tout est fait.
Avec plaisir. Hein.
Voilà. Je rappelle qu'à nos micros, nous avions Natacha Dehaye, directrice de l'EHPAD Villa Providence. Merci à vous d'être passé par nos micros.
Merci à vous pour votre accueil.
Nous avions son collègue Guillaume Debris, qui est aide-soignant toujours à cette Villa Providence. Merci pour votre témoignage.
Merci à vous.
Nous avions également Marion Pétel, qui est chargée de recrutement à Nactim. Alors on va dire une agence d'intérim, mais pas vraiment. Elle est coopérative et puis spécialisée dans le médico-social, avec la particularité sur Évreux-Nétreville de la question du handicap. Merci beaucoup également d'être passé par nos micros.
Merci à vous.
Nous, on se donne rendez-vous bientôt. J'ai envie de vous dire que la période actuelle, j'ose à peine dire on se revoit le mois prochain, parce qu'il y a eu quelques trous dans notre programmation. Mais en tout cas, on a bel et bien envie de vous proposer un programme du même type, dès que nous le pouvons, à savoir le mois prochain. C'est ça, hein, Julien ? Mais voilà, il dit on y va. Voilà. Merci à Julien d'accompagner ces démarches, ces expérimentations, que dis-je, ces aventures radiophoniques. Restez à l'écoute de nos programmes. Dans un instant, c'est la rediff du mardi.